Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. C'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est la 12e saison de Silence on Joue. On a encore du mal à y croire, on est encore là. Et petite nouveauté, non, grande nouveauté cette année, on est maintenant avec nos amis de Binge Audio, donc que vous connaissez sans doute si vous avez une appli de podcast sur votre téléphone, parce qu'ils en font plein, et ils en font des biens, et il y en a plein de nouveaux aussi, vous pouvez regarder le programme. Donc on est dans le studio de Binge Audio, après avoir été accueillis super gentiment par nos amis des croissants, hein, n'est-ce pas Corentin,
vrai,
à la fin de saison dernière.
C'était un plaisir.
Voilà,
aussi.
Et donc voilà, là on a trouvé une solution pérenne. On va continuer si on s'en joue, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Et puis voilà, donc on commence cette 12e saison avec un programme très chargé. On va commencer avec une petite récap des sorties, des portages Switch de l'été. On parlera de The Messenger, donc le node à Ninja Gaiden, hein, édité par Devolver. On continuera évidemment par Spider-Man, hein, la sortie incontournable de cette rentrée. Et on terminera par un jeu sorti au milieu de l'été, pas forcément dans l'indifférence générale, mais pas loin, mais on en parlera, qui est, oui, Happy Few, sorti début août. Et puis, grande nouveauté, et il faut l'annoncer dès maintenant, c'est le retour des jeux de plateau dans Silence on Joue, voilà, avec Monsieur Fall, qui avait arrêté parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et puis, j'ai eu une proposition que je ne pouvais pas refuser. Je n'ai pas reçu de tête de cheval dans mon livre, vous inquiétez pas. Mais c'était Jérémy Klitskin, qui est donc un auditeur historique, contributeur historique des forums de Silence on Joue, et qui m'a proposé de faire une chronique. Et vu que le monsieur quand même a commencé à éditer, à créer ses propres, pas éditer, mais à créer ses propres jeux de plateau, voilà, on en avait pas, Monsieur Fall en avait chroniqué un, hein, et donc il a proposé de faire une chronique un peu, alors c'est pas Monsieur Fall, hein, vous attendez pas à avoir une copie, il ne parle pas très très vite, tout pareil.
Bonjour mon cher Watt.
Mais c'est ça.
Bah, il faut pas, il a raison.
Il ne fait pas de la copie, mais voilà, ça fait plaisir. On retrouve des jeux de plateau dans Silence on Joue et c'est formidable. Bref, commençons cette émission et je commence évidemment en accueillant trois chroniqueurs, bon, deux de mes chroniqueurs favoris, hein, donc Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants.
Salut Erwan.
Bonjour Corentin, bah oui, on n'est plus aux Croissants, mais on garde Corentin.
Et
c'est,
oui.
Ça, c'est cool.
ils m'ont pris du studio et ils m'ont ramené là.
Et un petit nouveau qui se demande ce qu'il fait là, Marius Chapuis de Libération. Bonjour Marius.
Salut Erwan, merci pour le petit.
oui, bah oui, oui. Non, juste, voilà, tu as repris, tu, depuis quelques mois déjà, tu reprends un peu aussi les jeux vidéo au sein de Libération, et donc c'est cool. On est plusieurs maintenant à Libération.
C'est participatif. Hein.
Voilà, c'est participatif. C'est collectif, le jeu vidéo à Libération. Bref, on va donc commencer avec les news de la rentrée, hein, Patrick, hein, ouais. Tu veux nous parler de quoi? De plein de choses, je crois.
Oui, on va essayer de rapidement rappeler ce qui a pu se passer cet été. Alors, parmi moi, les choses qui m'ont marqué, évidemment, dans les dernières semaines, c'est Cyberpunk, hein, qui a fait beaucoup parler de lui pendant l'E3. On se rappelle de ces sessions de gameplay qui étaient réservées uniquement aux personnes sur place. Et c'est sorti cet été. On a enfin pu les voir, nous, de l'extérieur. Et évidemment, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous avez vu aussi ces séquences. C'est très, très impressionnant.
C'est impressionnant.
Très impressionnant.
C'est classique, mais en fait, on sent qu'il y a les moyens qui ont été mis et que beaucoup de choses sont prévues dans ce jeu. Hein.
Ça a l'air extrêmement dense, extrêmement riche. Alors, il faut évidemment toujours se méfier de ces séquences. On sait qu'il y a toujours une part de choses qui sont scriptées. On a toujours du mal à voir, tant qu'on n'a pas manette en main, de juger exactement le gameplay là-dedans, la mise en scène. Est-ce qu'on aura exactement ça sur nos machines au final? En tout cas, il y a une vraie promesse. Il y a une vraie promesse de... Moi, j'ai eu l'impression d'être plongé dans Blade Runner, dans mon Blade Runner d'enfance que j'avais connu, et j'ai toujours rêvé de me retrouver là-dedans. On a vraiment cette sensation de se retrouver dans un univers cyberpunk, quoi, et de vivre. En tout cas, la séquence qu'on peut voir est vraiment assez fascinante.
45 minutes, hein, 47, je crois.
C'est assez. Et en tout cas, c'est impressionnant en termes du nombre d'infos qu'on peut voir passer sur ce que les développeurs ont intégré à leur jeu sur la transformation de l'humain, sur une ville transformée, sur la séquence de conduite. Enfin, il y a une énorme promesse. Et en tout cas, voilà, le côté un peu mythique des gens qui revenaient de l'E3 en disant on a vu un truc phénoménal, c'est vrai quand on voit, c'est vrai, oui, quand on voit la séquence par nous-mêmes, de nos propres yeux, quelques semaines après, on dit oui, c'est vrai que c'est vraiment phénoménal. Il y a une grosse promesse. Maintenant, on va attendre. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein. On sait pas, je crois que c'est 2019, je sais pas si c'est vraiment daté.
J'y crois pas. Une
2019,
seconde.
Première estimation, donc 2021.
Est-ce qu'il sort sur PS5 le jeu? Y a
alors,
aucun problème,
ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est un jeu de cette génération ou pour la prochaine? Moi, ça me paraît encore réalisable pour cette génération. Moi, je pense que c'est à peu près faisable. On verra. Je pense qu'il sera sûrement cross-gen, comme beaucoup de jeux qui sortent comme ça.
Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'est l'aspect sans transition des différentes scènes du jeu. Fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul temps de chargement. Vrai. Tout arrive. Enfin, comme si on était dans une grande
organique.
Scène, en fait.
C'est ultra organique. Par tout ça, c'est aussi une préparation.
Combien de 1080 étaient mis ensemble pour faire tourner cette démo?
Je pense que c'était très très costaud ce qu'ils ont tourné, ce qu'on a vu.
Mais si la promesse est tenue, en tout cas,
En dehors même de la promesse de visuel, il y a une vraie promesse, je trouve, de thématique et de façon d'entrer dans ces univers qui sont quand même complètement fascinants.
J'avoue, il y a le. Ah, pardon, Marius.
La direction artistique est complètement dingue. Chaque personnage a une. On ne sait pas ce qui tient du bullshit et compagnie, mais
ça
vraiment,
fait rêver. Ça
la DA suffit à donner envie. Quoi.
Ça envoie du rêve, ça c'est clair que...
Et le petit moment moi, où j'ai un peu basculé, c'est un peu comme le moment où, tu sais, dans le trailer de Red Dead Redemption, où le cheval fait un petit écart, où là où tu bascules complètement. Et là, le moment où j'ai basculé, c'est au début, tu t'es un peu... tu fais le rapport avec les jeux que tu connais, on est un peu Deus Ex, quoi. Tout ça. Et il y a le moment... où on va dans la voiture et on n'est plus dans le petit quartier de Deus Ex, tu sais. Deus Ex, c'est du monde ouvert, un peu de petit quartier, quoi.
Oui,
tu vois,
toujours
t'as trois ruelles, machin.
Ouais.
Et là, on est dans Deus Ex et puis on prend la voiture
et, on se casse, quoi.
Et on fait 40 bornes, quoi.
Je sais pas si
fait
40 bornes.
Non, pas 40 bornes, mais on va vite. Et puis, on est dans un GTA. Enfin, on est dans cette échelle de ville. Ouais. Et ça change un peu. Enfin, je trouve que on n'est plus dans la même échelle.
Et c'est vrai qu'il y a aussi cette question d'échelle. Quelle va être la taille de l'univers? C'est vrai, comme tu dis, il y a cette séquence de voiture qui est assez folle où il part comme ça. Quelle va être la taille de l'environnement, de la grande ville dans laquelle est-ce qu'on va pouvoir sortir de la ville? C'est des questions aussi qu'on verra. Mais comme tu dis, c'est très loin des Deus Ex qu'on a connus où c'était souvent un morceau de quartier, de quelques rues par séquence.
C'est ça.
Et là, oui, on est sur d'autres enjeux.
Il y a un côté fascinant quand même avec la com qu'il y a eu, le fait que ça soit pas montré, que ce soit juste du bouche à oreille à l'E3, et que malgré ça, malgré toute l'attente qu'il y avait, personne. Enfin, moi,
oui, c'est vrai qu'il
n'y
a pas eu de.
C'est
vrai qu'on aurait pu être déçu d'un tel buzz à l'E3, et en fait, non, on comprend que les journalistes avaient vraiment vu quelque chose d'exceptionnel. Et bah voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein.
On attend.
On va attendre. Alors deux, trois autres news que j'avais vu passer cet été. moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est on a enfin une date de sortie pour Travis Strikes Again. C'est le prochain Suda 51 qui sera exclusif à la Switch, avec une thématique qui nous parle parce que c'est du jeu vidéo. Le personnage va être intégré dans des jeux vidéo. Il va y avoir plusieurs mini-jeux. Ça sort courant janvier 2019. C'est encore quelques mois d'attente, mais enfin voilà, moi c'est un jeu que je vais. No More Heroes, hein, on en a souvent parlé ici. C'est quand même une série culte qu'on va attendre. Et puis il y a toujours ce côté décalé. Là, je pense qu'il va être à fond là-dessus. Dernière chose, c'est la Neo Geo Mini. On avait aussi, elle avait fait pas mal parler d'elle pendant le 3. Il y a eu les premières prises en main aussi des gens qui étaient sur place. Elle sort le 10 octobre à quand même 130 euros. Voilà. Alors moi, je vous cache pas.
C'est pour être cohérent avec la Neo Geo, en fait.
Bah, oui, mais enfin, alors moi, je vous cache pas.
C'était cette console. Alors, c'était cette console que personne pouvait se payer.
Mais à part que t'avais quand même un objet quand même assez hallucinant, même en termes de présentation. La Neo Geo, c'était la Rolls Royce à l'époque. On parlait de Rolls Royce des consoles. Alors moi, je suis plutôt bon public des consoles. Moi, j'ai la Super NES, la NES, même la Commodore 64. Oui, je l'ai prise. La Neo Geo Mini, j'avoue, pour l'instant, je j'ai pas encore sauté le pas. Hein. Il y a le prix, il y a le fait qu'on a quand même pas mal de jeux aussi sur Switch.
Non.
De quoi ?
Tu vas l'acheter.
Justement, je vais attendre de voir. Non, mais moi, je trouve qu'elle est un peu petite, en fait, cette bécane. Elle est un peu. Moi, quand on parle Neo Geo, j'ai des images de machines. Il y a un côté luxueux à Neo Geo. Et je trouve que la machine en elle-même fait un peu petite, elle fait un petit peu ramassée, elle fait un peu. Donc, on verra.
Alors, t'as plus de place chez toi.
Il y a peut-être ça aussi. Donc, mais voilà, moi, je m'attends. Enfin, Neo Geo, on me parle de Neo Geo. Pour moi, c'est du son qui sature, c'est des visuels, des pixels énormes. Alors, tout ça, on peut la brancher. C'est vrai qu'elle est sur un petit écran intégré, on peut la brancher en HDMI, mais ouais, je trouve qu'elle a un petit côté plastique, moi, qui me fait pas rêver comme la Neo Geo a pu le faire. Donc on verra évidemment.
Il y a fine bouche, hein.
Fine
bouche, hein.
Il y a le prix quand même. Hein. C'est vrai, quand on passe les 100 euros, il faut aussi derrière. Donc je verrai.
Il économise pour l'Amiga Mini.
Je verrai une fois, voilà, qu'elle sera sortie, on verra un petit peu les critiques. Puis on n'est pas à l'abri d'un accident en magasin. Donc on jugera sur pièce une fois sortie. Mais c'est vrai que quand on passe les 100 euros, il faut quand même derrière que ça assure.
On va parler de la Switch tout à l'heure, mais tu vas déjà commencer à en parler, Corentin.
Oui, alors le dernier des Mohicans sur le online gratuit va aussi passer au payant, puisque Nintendo, ça y est, va lancer son programme en fait de online payant. Ça arrive, donc là, ça a été annoncé, c'est tout récent, ça a été annoncé hier.
C'était compliqué, hein.
Je pense que ça aurait dû être annoncé lors d'un Nintendo Direct qui a été annulé à cause du tremblement de terre qui a eu lieu dans le nord du Japon la semaine dernière. Et du coup, donc là, ils l'ont annoncé en dehors du Nintendo Direct, même si le Nintendo Direct va être diffusé ce soir pour nous, là on enregistre, donc pour vous ça sera déjà passé. Mais bon, ils ont annoncé le prix du coup en avance parce que ça arrive dès la semaine prochaine, ça arrive le 19 septembre, ça coûtera donc 20 euros par an, 35 pour une famille, c'est pas cher, hein, honnêtement, surtout par rapport à la concurrence. Ça reste un prix à payer, donc bon, on va voir ce qu'il y a à offrir derrière, puisque le jeu, donc, en effet, permet de jouer online pour des jeux tels que, je sais pas, Splatoon, Mario Kart, tout ça, mais aussi propose des jeux NES inclus, un petit, une espèce de micro Netflix jeux vidéo avec un catalogue en ligne de jeux NES. Alors bon, les jeux NES, on les a déjà vus, revus.
NES Mini, sur.
Voilà, ils ont été rentabilisés un milliard de fois par Nintendo, donc on va dire merci Nintendo.
sympa.
Voilà. Mais aussi le cloud pour les sauvegardes, ce qui était un gros manque sur la Switch, puisque si jamais un jour vous perdez votre Switch, vous faites voler votre Switch,
Zelda,
vous cassez votre Switch,
Zelda.
Et ben
pas
vous
tous
perdez.
Les jeux, hein, pas tous les jeux.
Moi, longtemps, ça a été mon stress de me faire chourer ma Switch. Perdre ma Switch, c'était de perdre ma sauvegarde Zelda.
Ce qui est d'autant plus un comble pour une console qui est portable. C'est hallucinant.
On est en 2018, hein, c'est des choses qui sont.
Et alors, il y a une micro-polémique qui se lance là, puisque, donc, comme tu le dis, certains jeux ne bénéficient pas du cloud.
Pas n'importe lesquels. Hein.
Des jeux comme Pokémon et Splatoon 2, notamment du côté de chez Nintendo, et du côté des éditeurs tiers, on a FIFA 19 et Dark Souls, ce qui est chelou, puisque la raison invoquée est le fait que, oh là là, il ne faut pas qu'ils trichent en, par exemple, échangeant des cartes dans le mode Ultimate Team ou des Pokémon dans Pokémon, en réinitialisant sa sauvegarde grâce au cloud et en récupérant ses Pokémon ou ses cartes échangées à la base pour éviter de tricher. Quoi.
Ah oui, de revenir sur une ancienne sauvegarde.
Gérer ça côté serveur, les gars. Vous n'êtes pas aussi endimanché, c'est pas possible. Donc voilà, c'est une raison étrange, mais bon, c'est comme ça que ça se passe.
Donc ça s'enclenche là dans les jours qui viennent. Il y a une mise à jour, je crois, de la bécane. Hein,
donc le 19 septembre, online pass payant.
Online pass payant, et il y a une semaine gratuite. Donc en vrai, si vous pouvez continuer à jouer gratuitement jusqu'au 26. Et donc voilà. Et moi, je voulais aussi évoquer rapidement PUBG qui passe pour la première fois sous le million de joueurs.
Ouh là là.
Ce qui est un marqueur quand même, je trouve, puisque c'était le jeu qui
dominait... C'était un marqueur dans un sens, c'est un marqueur dans l'autre.
C'est ça. C'était le jeu a dominé l'année, en début d'année en tout cas. C'était le jeu qui, on se disait, mais qui va dépasser PUBG en début d'année?
Enfin, bon, au début d'année, ça, on commençait déjà à savoir qui.
On avait des pistes.
Le pic est vraiment... Enfin, ça a continué de monter, donc c'était la bagarre.
C'est en mars.
Voilà, il y avait l'outsider Fortnite qui arrivait pour tout casser derrière. Et puis à partir de la version mobile, ça a commencé à dégringoler puisque Fortnite est devenu de plus en plus populaire. Et c'est pas complètement une coïncidence puisque Fortnite ajoute toujours des mises à jour à une communauté. Tout le monde en parle régulièrement. Il y a un lore qui se crée qui est vraiment efficace. Clairement. Un lore en plus, c'est avec des faux airs d'ARG puisqu'il y a des éléments de la vie réelle qui s'intègrent au jeu et inversement. C'est vraiment
fascinant.
En face, il y a quelque chose de très lourd. Alors, ce jour où il est passé sous le million de joueurs, c'était le 10 septembre et c'est pas un hasard puisque c'est le premier jour de la bêta de Call of Duty Blackout qui en plus était extrêmement bien reçu par les gens qui l'ont pu essayer. J'ai regardé des streams. C'est PUBG en propre, quoi. C'est vraiment hallucinant. Il n'y a pas de bug. Il va vraiment souffrir de la comparaison PUBG. Et PUBG en est particulièrement conscient dans la mesure où ils ont lancé cet été une grosse campagne de chasse aux bugs qui a été faite. Donc, ils ont lancé un site qui s'appelle Fix PUBG qui est en fait la phrase type que tout le monde balançait sur Reddit, dans les forums, machin. Donc, ils ont pris cette formule pour eux. Ils ont fait un site et ils ont fait une grosse roadmap avec des stats, mais dans tous les sens, pour expliquer où ils en sont, quels bugs ils ont enlevés, quels bugs il leur reste à enlever, et du coup c'est un peu
genre on se relève les manches, quoi.
On se relève les manches, on prend le taureau par les cônes et on vire les bugs. Et le dernier point, cet hiver normalement nouvelle map enneigée, à mi-chemin entre une petite map et une grande map, et ça va être intéressant à voir.
Je vais peut-être revenir,
voilà,
ça fait longtemps en même temps. On va commencer. On va commencer cette année après les news d'intro avec quelques sorties Switch, quelques portages Switch qui sont arrivés cet été, dont un portage qui te tenait particulièrement à cœur. Tu en avais déjà parlé, Patrick, en la saison dernière. C'est Night Trap.
We have a car, your parents are gone, and you say so? Come on, Sarah, what's the first thing you think of? Party!
Voilà, tu en avais parlé, hein. Tu nous en avais parlé. Ça fait envie? Est-ce que ça fait envie?
Bien sûr que ça fait envie, rien que les sons qu'on a pu entendre, c'est toute une tranche de l'histoire du jeu vidéo Night Trap. Hein. Il faut se rappeler, début des années 90, il arrive sur Mega CD, il fait scandale. On rappelle un petit peu le principe, c'est ce qu'on appelait les débuts du cinéma interactif. Le pitch, donc nous on contrôle en fait un système de surveillance d'une maison où un groupe de jeunes femmes arrive et va être attaqué par une bande de vampires. Voilà, il y a tout un folklore autour de Night Trap et c'est vraiment amusant de le voir arriver aujourd'hui sur Switch parce que comme d'ailleurs l'avait bien je crois repris Limited Run Games qui l'avait réédité en physique il y a quelques semaines.
Ils l'ont fait celui-là.
Il l'avait fait en physique mais en version évidemment toujours limitée, donc cartouche en version limitée. Je crois que c'est eux qui avaient fait la pub avec qui reprenait Howard Lincoln qui était le patron de Nintendo US à l'époque, qui disait je crois devant les sénateurs: jamais vous ne verrez un jeu comme Night Trap sur une console Nintendo. Donc ça faisait rire.
C'est le début de la bande-annonce. C'est ça. La bande-annonce, c'est ce passage.
Et du coup, il arrive aujourd'hui sur Switch, mais bon, beaucoup d'eau a coulé depuis. Alors, il arrive donc dans sa version 25e anniversaire. Oui, donc il était, je crois, déjà disponible sur Steam depuis un petit moment. Donc c'est le meilleur moyen de découvrir Night Trap pour les courageux qui veulent s'y pencher aujourd'hui.
Il faut payer combien?
Alors justement, c'est là que c'est pas mal, c'est que c'est un prix plutôt intéressant. Je crois qu'il a 12€, 11,99€. D'accord. C'est plutôt serré comme prix. Et puis là, on découvre Night Trap dans les meilleures conditions possibles, parce que on a moi je l'ai eu sur Mega CD, je l'ai eu sur Mega CD 32X, donc j'ai vu l'évolution de la compression vidéo qui était abominable sur Mega CD. Là, on a vraiment, on sent qu'il y a eu un vrai travail des fichiers vidéo d'époque qui sont plutôt propres, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, même sur un écran quand on le passe en dock sur l'écran de télé, c'est plutôt propre, ça passe plutôt bien. Évidemment, il y a un vrai cachet 80 aux vidéos, parce qu'on rappelle, ces séquences vidéo avaient été tournées en 87, je crois, pour un projet de console chez Hasbro qui devait fonctionner avec des cassettes vidéo pour voilà, proposer une interaction, wow, voilà, comme ça. Donc finalement, ce n'était pas sorti. Les fichiers avaient été récupérés plus tard par l'équipe de Digital Pictures pour en faire un jeu plus tard. Bon, bref. Il y a un vrai cachet années 80 dans la visuelle, mais là, donc encore une fois, les fichiers vidéo sont plutôt pas mal. On a plusieurs de bonus, des reportages sur le phénomène Night Trap, le scandale qu'il a pu provoquer à l'époque pour pas grand chose. Hein, d'ailleurs, quand on rejoue aujourd'hui au jeu, on se rend compte que, enfin, il y a eu beaucoup de cris et d'articles.
C'est là où on voit, c'était le jeu vidéo. Donc
c'était le jeu vidéo, ouais, et surtout c'était un premier contact à l'époque avec de l'image vidéo crue. Ouais, on n'était pas habitué à ça. On sortait des jeux, enfin à côté on avait Mario, Sonic, et là on avait de la vidéo filmée avec un joueur qui interagissait avec des jeunes femmes, etc. Donc c'était un nouveau rapport au jeu vidéo, une nouvelle forme de jeu vidéo qui était, voilà, en termes d'interaction très critiquable, évidemment, en termes de gameplay aujourd'hui ça fait un peu rire, mais c'est une vraie pièce de collection. On a une édition en plus où on peut retrouver le prototype qui avait été dans les bonus intégrés, qui s'appelle Scene of the Crime, qui avait été le prototype de Night Trap, donc c'est plutôt intéressant de mettre tout ça, de profiter de tout ça. On a plusieurs configurations d'écran, on peut jouer sur les différentes version. Et puis surtout, on a cette VF mémorable qui vaut vraiment le... Il faut y jouer en VF. Moi, quand vous voulez vraiment vous faire un trip nanar à fond, il faut y jouer en VF. C'est assez incroyable. Donc encore une fois, c'est une vraie curiosité. C'est une tranche de l'histoire du jeu vidéo. En termes de gameplay, bah, qu'est-ce qu'on fait? On switch d'une caméra à l'autre pour surveiller les actions d'une pièce.
Je pensais que
t'allais
faire une liste, tu vois, de portage switch.
Ah oui, d'accord. J'enchaîne sur l'inter... En tout cas, voilà, si vous voulez jouer une curiosité un peu nanardisante... Allez-y, Night Trap, c'est...
C'est une préquelle à Horror Story, si j'ai bien compris.
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, où tu passes d'une caméra à l'autre, et puis il se passe plein de choses. Et puis moi, coup de cœur de l'été, en dehors de Night Trap, évidemment, que j'attendais de pied ferme, c'est Dead Cells, que j'ai découvert vraiment sur Switch. Je l'avais un peu pris en main au Paris Games Week sur PC. C'est vrai que je l'avais pas pratiqué sur les versions en développement sur PC. Je l'ai vraiment découvert, la sortie sur Switch. Et une drogue dure pour moi, ce jeu. J'ai vraiment été embarqué. Je trouve, il est incroyable.
On va en reparler très vite, hein,
parce que vraiment moi je trouve qu'il est, mais il y a une finition, enfin la musique, le gameplay, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas d'y jouer, enfin il y a un côté, tu fais une partie, tu en fais une deuxième, une troisième, tu ne peux pas t'arrêter, et puis il y a une richesse dans le gameplay. Je trouve qu'il y a une sorte de, comment dire, de flexibilité. C'est un jeu qu'on transforme soi-même en fait avec les armes qu'on peut sélectionner. Enfin, moi j'ai vraiment sombré dans Dead Cells, mais complètement. Je trouve qu'il est
grosse réussite de Motion Twin
en termes de visuel.
Je conseille d'ailleurs le reportage de Game Cult chez Motion Twin, qui est super intéressant.
C'est vrai.
C'est communiste de Motion Twin.
C'est ça.
Mais en fait, moi j'avais un peu, voilà, j'avais à peu près en main sur le salon. Bon, je me dis, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai vu le 9 de GameCube tomber, je me suis dit, oh là, tiens, c'est quand même... Et puis là
honnête, le jeu est excellent, mais c'est aussi leur genre de jeu à GameCube, donc c'est pas assez étonnant.
Non, mais il a un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'il y a le visuel, il y a l'ambiance, il y a le gameplay, mais il y a l'âme. Ce jeu, il a une âme, il a vraiment un truc qui fait qu'on y revient. Et puis j'ai commencé Hollow Knight aussi, qui est une très bonne surprise, même si j'ai pas la même addiction qu'à Dead Cells.
Le problème, peut-être que les deux en même temps sont...
C'est peut-être difficile de mener les deux, effectivement, en même temps. Il est très très joli, Hollow Knight. Il a une charte graphique hallucinante, mais pour l'instant j'ai pas ce côté ultra addictif de Dead Cells qui est, voilà, vraiment incontournable.
Et juste pour signaler, dans les portages Switch, un portage que beaucoup attendaient ou pas, parce que moi j'avoue que j'ai... Non, mais il a cartonné sur téléphone portable, c'est Mini Metro.
Ouais, formidable petit jeu, détente, il n'y a rien de plus relax, et là pouvoir y jouer dans le métro avec une vraie console et
un grand écran, c'est-à-dire s'il y a une station qui apparaît à côté d'une autre, tu pètes pas toutes tes lignes quand tu tires un doigt.
Il faut se réhabituer aussi au gameplay où tu avais appris à jouer avec le doigt et détacher les lignes vite fait au doigt. Là, au bouton, c'est autre chose.
Ah, parce qu'on... Ah bah non, mais oui, je suis con. Bah oui.
Ça se joue au bouton, alors.
Ah ouais, bah oui.
C'est traître.
Ah, c'est chaud.
Ouais, au début, c'est chaud.
On peut pas y jouer en...
J'ai même pas essayé.
D'accord. C'est la magie de la Switch. Si tu peux jouer à Night Trap dans le métro. C'est ça aussi.
Ah oui.
Eh ben oui.
C'est quand même moins récursif que Mini Metro dans le métro.
Bien sûr, mais c'est quand même aussi un événement.
Mais par contre, j'ai une interrogation. Trouver Mini Metro relaxant.
Moi, ça me stresse de ouf.
Mais grave.
Ah non, moi je trouve ça totalement calme. Tu gères le tempo. Au début, tout est très tranquille. Après, tu fais ta petite pause. Tu redéfais tes lignes. Tu réfléchis.
Ah, mais c'est peut-être que j'utilise pas assez le pause.
C'est le flow. Tu atteins le flow.
Ah non, il faut mettre pause et tout péter. Calmement.
D'accord. Bon, mais Mindy Metro vient aussi d'arriver sur Switch. C'est le moment, on va passer à... Il vient de sortir, alors c'est dans la catégorie très remplie, hein, des plateformeurs pixelisés, avec du combat, avec des choses... Il y a beaucoup de concurrence, mais là c'est une sorte d'ode à Ninja Gaiden, et c'est édité chez Devolver, ça s'appelle The Messenger. The Messenger. Alors j'ai commencé, mais alors je vais te laisser un peu seul, Corentin, hein, parce que bon, d'une part c'est pas du tout ma spécialité. Hein, faut bien dire que gérer des sauts, frappes, sauts, machin, wouh.
Ah oui, c'est une drôle de mécanique.
Et en plus mon pad marchait pas, hein, donc j'ai joué au clavier. Et non, je peux pas. Bon, alors, en fait il y a des ninjas. Voilà.
C'est oui, à peu près. Oui, mais c'est bien.
C'est une bonne
définition. Donc The Messenger, quand on commence à le regarder, je pense que les inspirations sont immédiatement claires, et ouais, tu l'as dit, c'est du Ninja Gaiden, c'est du Shinobi, c'est ces jeux de l'ère 8-bits dans lesquels on contrôlait des ninjas qui faisaient des sauts partout, qui donnaient des coups de katana et qui balançaient des shurikens, grosso modo, dans des niveaux linéaires, mêlant plateforme et action. Il fallait arriver au bout du niveau, il y avait un boss, etc. Donc voilà, un style assez classique finalement, que beaucoup de développeurs indés ont déjà pris d'ailleurs. Moi, ça m'a fait immédiatement penser, c'est vrai, à Shovel Knight, qui est un petit peu dans cette veine-là, même s'il s'inspire plus d'un Megaman ou d'un DuckTales plutôt que d'un jeu comme ça. Donc finalement, cette famille de jeux de ninja de l'ère 8-bit n'avait pas encore été trop explorée. Donc ça fait plaisir que ce studio québécois de, je vais noter, Sabotage, voilà, ils sont francophones d'ailleurs, c'est pour ça que la VF est très bonne au passage, se sont emparés de ce style-là et ont décidé de voir comment on pourrait un peu moderniser, comment on pourrait faire un jeu de 2018 avec quand même ce charme des jeux de ninja d'antan. Et il faut dire que, en tout cas, au premier abord, c'est plutôt réussi, puisque ce jeu commence de manière très classique, mais vous introduit une mécanique de jeu assez rapidement qui est moderne, on va dire. Donc, cette mécanique-là... On démarre dans son petit village de ninja qui est grosso modo le dernier bastion de l'humanité dans un monde ravagé par les démons.
Il y a un scénario.
Bref, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, le jeu se moque souvent de lui-même. Il prend sa propre histoire à la rigolade, plutôt de manière marrante même, je dirais. Et donc, on commence dans son petit village de ninja. On est un élève ninja. On s'apprête à prendre un cours de ninja. D'ailleurs, on nous apprend la mécanique principale qui est que vous pouvez sauter une fois. Et c'est tout, vous n'avez pas de double saut, sauf si vous arrivez à mettre un coup à quelque chose, donc soit un élément du décor sur lequel on peut frapper, comme le plus souvent c'est des lanternes, ou bien un ennemi, ou bien une fois qu'on aura les upgrades, un projectile.
Qui arrive vite. Hein.
Qui arrive très vite. On peut jouer sans cela, mais je vous conseille de la prendre, elle est très utile. Donc ce qui fait qu'on est devant une capacité qui est, on va dire, très adaptative et qui mêle beaucoup le combat et la plateforme. C'est-à-dire qu'on va avoir assez loin dans le jeu ensuite des moments où on est dans le vide total et on doit juste s'en sortir avec des ennemis, des lanternes, et on doit mettre des coups, sauter, et en faisant attention à toujours avoir un coup d'avance pour éviter de tomber dans le vide, quoi. Ce qui peut assez rapidement, je dois bien l'avouer, embrouiller l'esprit. Enfin, c'est une mécanique qui remplit vite le cerveau, honnêtement. Hein. C'est pas facile.
Mais on parlait de la difficulté, par exemple, de jouer à Hollow Knight et Dead Cells. Il faut pas jouer à The Messenger en même temps.
Voilà,
je pense que les connexions du cerveau.
Planning.
Ou un petit coup de mini-métro pour se désintoxiquer.
Ou alors, tu fais un peu de night trap entre deux pour...
Je pense qu'il y a un moment où ça doit rentrer dans les réflexes, ça doit rentrer dans ton instinct de faire saut, bien timé et tout ça. Mais je pense que si ça rentre dans ta tête, tu peux plus jouer à autre chose.
c'est un peu l'idée. Mais je trouve que même au bout de 7h30 de jeu, en ce qui me concerne, c'est pas complètement rentré.
En fait, il ne faut jouer qu'à ça.
ça va, bon, je sais pas, je joue à d'autres jeux quand même, ouais, à côté, mais ce que je veux dire par là, c'est que
le mec, il lâche tout quoi pendant un mois.
j'ai jamais eu le sentiment de maîtriser cette capacité à 100%, ouais, malgré les quand même 7h30 de jeu, ce que je pensais faire. Alors ça veut pas dire que c'est pas agréable, hein, c'est vraiment très agréable. Il y a vraiment des moments épiques où on est waouh, j'ai réussi à faire ça, mais au final c'est parce qu'on martèle bouton d'attaque et de saut en même temps, enfin tu vois, c'est, ouais, c'est j'ai
un peu à l'ancienne quoi,
un peu à l'ancienne, on mâche un peu le bouton et on finit par y arriver, donc c'est plutôt bien fait. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans des moments où ça demande un peu plus de précision, où tu peux pas justement attaquer comme ça, il faut vraiment comment dire, préparer toute son avancée dans le niveau de plateforme qui est très compliqué, ça bourre vite le cerveau et on pense avoir un saut et on ne l'a pas, et ça peut être frustrant à ce niveau-là. Et le jeu, malheureusement, et c'est un des premiers défauts à mon sens, alors il a plein de qualités, hein, mais l'un des premiers défauts, c'est que la mort est trop frustrante. La mort est vraiment trop frustrante.
Enfin, c'est un peu souvent comme ça, là, ouais, dans la vie. Hein,
mais on est en 2018.
Alors, tu ne l'as pas vu jouer à Céleste?
Non.
Parce, ouais, que quand Corentin dit la mort est frustrante, c'est qu'elle, ouais, doit être vraiment frustrante, parce que Corentin, il s'en fout de mourir 823 fois.
D'accord,
pour finir
là,
un niveau.
Y a un vrai,
il s'en fout. Hein.
Je suis plutôt résistant à la frustration, mais là, le problème, c'est que, par exemple, la chute est mortelle immédiatement.
Ouais.
Alors que les coups des ennemis ne sont pas mortels immédiatement. Ce qui fait qu'en fait, on va réussir toute une phase, puis on va prendre un coup pourri d'un ennemi qui va nous pourrir un saut, on va tomber dans le vide, on va mourir, et on va retourner à au checkpoint précédent, mais avec le petit temps, le petit jingle, t'as perdu, y a le petit démon qui se fout de ta gueule, alors c'est un démon qui récupère ton argent que tu vas récupérer ensuite, c'est-à-dire que on te prend pas d'argent, mais tu dois rembourser sur ta partie d'après. Alors
tu prends un crédit en fait.
Tu prends un crédit. Non mais c'est plutôt malin ça, et ça diminue la frustration pour le coup, mais c'est vrai que ce petit temps, mais c'est pas grand-chose, mais ça s'accumule sur les passages un peu difficiles. T'es là en mode c'est bon quoi, j'ai compris, je suis mort. Et on meurt aussi, tu sais, quand tu te fais écraser entre un mur et une plateforme, ce genre de choses, et c'est frustrant et c'est dommage, parce que sinon le jeu est très rapide, les contrôles répondent au poil, c'est ta faute si tu meurs vraiment. Il y a juste la seule petit défaut que j'aurais tendance à dire, c'est que le ninja, donc qui est ultra mobile, habile, qui s'accroche partout, il s'accroche au mur, aux surfaces planes, mais le mec ne s'accroche pas sur une plateforme, c'est-à-dire que si ton bloc fait un bloc de haut, il s'accroche pas. Pourquoi ? Bref, tu vois, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Alors, à part ça, la musique est excellente. On a pu entendre un morceau tout à l'heure voilà, c'est du chiptune assez cool. Et il y a quand même une mécanique qu'on n'a pas évoquée, mais qui est vraiment mise en avant par le jeu, et c'est celle du voyage dans le temps. Parce qu'au bout d'un moment, dans le jeu, en fait, on va voyager dans le temps. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va passer de l'ère 8 bits à l'ère 16 bits.
Ah,
c'est-à-dire que les graphismes vont d'un seul coup les détails vont augmenter d'un seul coup.
C'est cool,
nombre de pixels à l'écran va devenir beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus agréable. Et
le passage du 8 au 16, on l'a tous vécu comme. C'était un des grands chamboulements dans l'histoire du jeu vidéo.
Et ben, on le revit un peu comme,
comme ça.
Tous les éléments du coup ont leur version 8 bits, 16 bits. Du coup, c'est. C'était mis là. Ah, il est plus joli quand même, comme ça, et tout, c'est sympa. Ton propre ninja, il est quand même plus il est
classe,
plus,
quoi.
Plus détaillé, il est
plus grand,
plus...
non, la même taille,
parce que le jeu reste le même,
et les changements, mais c'est juste cosmétique quoi.
Et le changement se fait de manière immédiate en fait. D'accord. Tu traverses des portails et là t'as un joli effet à l'écran, et en fait certains éléments, en fait c'est le passé et le futur, donc certains éléments vont plus être là, certains éléments vont se rajouter, il y a des passages qui vont s'ouvrir, etc. Alors, du coup, au niveau de la structure, le jeu est très bon, mais il y a un énorme mais, honnêtement. Et je vais devoir, du coup, révéler quelque chose qui se passe au milieu du jeu et qui arrive à peu près au même moment que le passage dans le futur. C'est que la structure du jeu se change au bout de 7h30. Au bout de 5 heures de jeu, 6 heures de jeu, le jeu ne devient plus un simple jeu d'action plateforme, mais un Metroid-like. Il se transforme en Metroid-like. Ah oui. C'est-à-dire qu'une carte apparaît. On te dit il faut explorer là, il faut récupérer des trucs dans le monde entier. On débloque certaines capacités. Il y a tout un arbre de compétences qui se débloque. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan du jeu qui se débloque. Ce qui d'ailleurs est assez cool hein, quand on le vit. On fait, ah ouais, il y a tout ça qui se paie et tout. Mais c'est là que le jeu devient pas bon, quoi. Je suis désolé. Le jeu, en fait, à la base, est pensé pour être linéaire. Et du coup, à la fin, ils essayent de rafistoler à coup de. Un petit peu de manière artificielle, des passages très linéaires. Ce qui fait que le jeu, en fait, va être constitué de backtracking vraiment lourdingue. On va devoir se retaper des longs segments qu'on a déjà fait plusieurs fois, juste pour aller chercher les éléments qui vont permettre de finir le jeu. Et c'est dommage parce qu'en plus, dans la première partie du jeu, on a boss sur boss. Il y en a plein, ils sont bien faits. Et après, c'est vite, quoi. On se refait juste des parties qu'on a déjà fait, on essaie de réfléchir à par où je suis pas allé, on regarde sa carte, on se demande machin, et le jeu devient un peu plat. Donc c'est dommage parce que les 6 premières heures sont vraiment excellentes, et après le jeu devient moins bon, et c'est vraiment dommage. Moi j'ai lâché à cause de ça, je suis même pas allé jusqu'au bout, alors que c'est le genre de jeu que j'adore et que je serais bien allé jusqu'au bout, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, dommage pour The Messenger, même si les 5 premières heures ou la première partie du jeu sont vraiment réussies, et j'encourage tout le monde, ceux qui ont aimé les jeux de ninja de l'époque 8 bits, je les encourage à essayer, parce que c'est des gens qui aiment ça, qui ont fait ça.
Il y avait beaucoup de jeux de ninja dans les années 80. Enfin, le ninja était une figure incontournable dans les 80s.
Et il s'est fait bouffer par les zombies. En fait.
Il s'est fait bouffer par les zombies. Donc, je vous encourage à y jeter un œil, mais gardez à l'esprit qu'il y a cette phase Metroidvania qui est moins réussie.
C'est dispo sur Steam.
Steam et Switch.
Steam et Switch, The Messenger, édité par Devolver.
Ça coûte entre 17 et 20 euros.
17 et 20 euros. Eh bien, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin, donc notre nouveau chroniqueur jeu de société. Et pour cette première chronique, alors je vous encourage évidemment à venir causer de tout ça avec lui sur les forums officiels de Silence on Joue, où il est très présent. Donc pour cette première chronique, il va nous parler de Azul. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors forcément, en ce qui concerne les plateaux dans Silence on Joue, on a pris du retard. Récemment, il y a eu plein de jeux incontournables. Et là, je vais vous parler du chef de la bande des incontournables. J'ai nommé Azul, A-Z-U-L. Dans Azul, on se retrouve au XVIe siècle au Portugal, à décorer le palais royal de Manuel Ier avec des carreaux de faïence de couleur. Au centre de la table, il y a des usines de carreaux. Les joueurs se servent tour à tour en prenant les carreaux d'une même couleur sur une usine, ou bien au centre dans la zone où sont rassemblés tous les carreaux qui n'ont pas été encore choisis. Chaque joueur possède un plateau individuel, une grille de 5x5 qu'on va décorer. Il y a un système très malin, on va à la fois marquer des points au moment de la pause, et en fin de partie si on a rempli certaines conditions en complétant des lignes ou des couleurs. Dans la boîte, le matériel d'Azul est de folie. Les motifs et les visuels sont élégants. Les carreaux sont agréables au toucher. Bon, c'est pas de la vraie faïence, mais attendez, je vais... Écoutez-moi ça. Ne nous mentons pas, ça reste un jeu complètement abstrait, il n'y a pas d'histoire, mais ça on s'en fout. Enfin, c'est très simple, c'est surtout très génial, très emballant. Azul est hyper accessible, c'est un vrai jeu de plateau comme on les aime. Il y a des rebondissements, on peut décider d'anticiper, d'emmerder les autres, de vite déclencher la fin de partie, pour gâcher la vie de ceux qui n'ont pas encore fini de faire ce qu'ils voulaient faire. D'ailleurs, c'est impossible de faire qu'une seule partie, on veut tout de suite y rejouer, et les connaisseurs ne sont pas passés à côté, puisqu'il a à la fois gagné le Spiele, donc le prix allemand le plus prestigieux du secteur, et aussi l'As d'or à Cannes. Donc c'est un jeu de Michael Kessling, qui n'est pas un inconnu, il est l'auteur de l'excellent Tikal, pour ceux qui connaissent. Donc 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, mais on peut enchaîner plus rapidement et y passer carrément la soirée. Ça s'apprécie à partir de 8 ans sans problème, c'est édité par les Canadiens de Plan B, et c'est une tuerie. Foncez, voilà, et sur ce, moi je vous dis à bientôt, pour parler de jeux qui rendent pas dépendants, où il n'y a pas de controverses, et qui font pas mal aux yeux. Bye bye.
Salut Jérémy, alors
ah, génial.
Hein? Bien ou pas?
Ouais, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, hein, le retour des jeux de plateau dans Silence on Joue. Merci Jérémy, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Et oui,
super.
Le retour des jeux de plateau dans Silence on Joue. Allez, on va s'attaquer au gros morceau, au blockbuster, au triple A de cette rentrée. Évidemment, c'est Spider-Man.
C'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville.
Bon, on dirait que ça commence.
Question, est-ce qu'il reste quelqu'un à New York qui n'ait pas envie de me tuer?
La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille.
Et non. Moi non plus. Allez, Spider-Man. Bon, on l'en. Alors, allez, vous avez remarqué, je peux pas m'empêcher de dire Spider-Man. Tu vois, c'est un peu comme on disait Strange.
Ouais,
tu vois, c'est
à l'époque, ouais.
Resident Evil pour moi, donc.
Daredevil. Daredevil, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, mais on est tous d'accord.
C'est des noms qui sont pas. C'est francisé, Spider-Man. Bon, bref, ça n'a rien à voir. On l'attendait quand même parce que beaucoup de démos, beaucoup de 3, beaucoup de choses qui étaient assez prometteurs dans les années. Annonce et tout ça, et surtout E3 2018, ça a été très très très... Ouais, toi t'étais pas trop curieux en fait.
Non, moi j'étais un peu méfiant.
Ah ouais?
J'ai eu l'impression que c'était juste un joli skin de Infamous et j'en ai ras-le-bol des super-héros. J'adore ça, j'ai grandi avec ça, j'en ai lu des kilomètres, mais Marvel Studios a réussi à me dégoûter à vie.
Avec les films,
même si le jeu m'a renversé, j'ai qu'une trouille, c'est qu'il fasse la même chose quoi. Ah oui. Que ça soit
qu'il fasse à partir de ce Spider-Man un Marvel
ravage le jeu vidéo comme ils ont ravagé le blockbuster au cinéma quoi.
Ouais, t'as beau aimer le jeu, c'est vrai que tu m'en parles beaucoup, c'est tu ne veux pas qu'il y ait un Captain America, un Iron Man, tu veux pas que la tour Avenger qui est présente dans le jeu soit réutilisée.
En même temps, c'est vrai que tout va tellement bien chez DC que c'est sûr que
il est parti Superman ou pas alors.
Et je crois qu'il arrête hein.
Et il prend sa retraite.
Ouais, enfin l'acteur. Mais bon, c'est très compliqué.
C'est son agent qui a dit que ça allait pas, mais bon, c'est pas le sujet.
C'est compliqué. Chez DC, c'est très très compliqué.
Bon, reprenons avec ouais, ce Spider-Man. Hein, donc, on est Peter Parker, Spider-Man. J'ai pas y arriver. On est dans une ville ouverte, on est à New York et on se balance. C'est fort. Moi, ça donc, il y avait eu déjà un Spider-Man en ville ouverte. C'était Spider-Man 2 hein, sur PlayStation 2. Il y a quelques années déjà, où on commençait déjà à pouvoir se balader dans New York en jetant ses toiles. Mais là,
très bien fichu déjà. Il y avait déjà des objectifs secondaires. On pouvait aller sauver des chats sur un arbre ou des trucs comme ça. Enfin, il me semble que dans mon souvenir, il y avait plein de petites missions comme ça autour.
J'ai plein de très très bons souvenirs de ce jeu-là. Ouais. Et sauf que là, on arrive en 2018. C'est un jeu de 2018 avec les moyens de 2018. Et ça fait tout drôle et c'est super. Marius, alors, premier contact, ça donne quoi ?
Le premier contact, toute la peur qu'on pouvait avoir s'évanouit. C'est juste un truc très bête. C'est qu'une fois en main, on se balance entre les immeubles et c'est complètement jouissif, quoi. Le gameplay est hyper simple. On l'a déjà vu.
Gâchette droite
pour se suspendre et puis après il y a des petites.
On peut se propulser aussi.
Voilà, rebondir, vraiment prendre de la vitesse, faire des catapultes. Ouais. Mais voilà, on avait l'impression que le jeu était connu et en fait une fois en main ce truc là, c'est complètement.
Ça change même le rapport au monde ouvert en fait.
Ah, complètement.
Oui, il y a une verticalité qui est introduite qui est formidable. On l'a déjà vu dans Assassin's Creed ou des choses comme ça, mais là il y a une joie complètement folle qui est de traverser la map en permanence, de jamais faire de raccourcis, de toujours prendre le chemin le plus long, de se laisser divertir par tout ce qui peut se produire en chemin. Et
ils ont réussi, pour moi, comme tu disais, hein, le fait d'avoir cette sensation d'être Spider-Man, donc de jongler comme ça entre les gratte-ciels, c'est vraiment très particulier. Et je trouve qu'on comprend qu'on a assimilé tout ça lors des premières missions un petit peu plus compliquées, où on va avoir 15 types à éliminer sur une plateforme, où on s'amuse vraiment à jongler comme ça entre les immeubles. Je ne sais pas si vous avez fait ça. On peut prendre un peu de recul par rapport à une scène, c'est-à-dire qu'on va s'éjecter, on va revenir. On peut vraiment jongler comme ça, et c'est vrai qu'on a un vrai ressenti physique quasiment de ces jets de toiles d'araignée où on se bascule comme ça d'un immeuble à l'autre. Et en tout cas, le personnage est très organisé dans ses mouvements. Je trouve qu'on a vraiment l'impression de le voir bouger. Il est tout le temps il est très naturel en fait. C'est
ouais,
très
même
naturel.
Les combats à la Batman qu'on a déjà bien visités.
Qui sont durs. Par contre, il y a un niveau de difficulté qui m'a un peu surpris dès le début. C'est qu'on s'attend à un jeu plutôt, on va dire, grand public. Hein, ouais. On est sur du Spider-Man. Non, donc, et en fait, très vite, lorsqu'on va aller attaquer un peu une mission secondaire, on va aller essayer d'arrêter un braquage, on se fait vite rétamer. C'est-à-dire qu'on sent que très vite, les combats sont pas évidents. C'est-à-dire que le jeu, il met le. Et c'est plutôt une bonne surprise. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir
un peu de concentration.
Un ticket d'entrée. Et sûrement, savoir gérer un peu la Spider-Man, c'est-à-dire ne pas y aller en bourrin, mais aussi prendre un peu de recul par rapport aux situations.
Toujours bouger, sauter,
revenir. Repartir.
Très élastique.
Et puis c'est Spider-Man, c'est-à-dire qu'il y a les vannes, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de lancer des vannes. Il y a ce côté aussi qui. On sent qu'il y a un respect de l'ADN du personnage. Et ça, c'est important. Et puis la ville, comme souvent dans un open world, le vrai héros, c'est la ville, c'est l'environnement, c'est là où on va se balader. Et là, je trouve qu'il y a un. C'est tout bête, hein. Bon, y a des détails, c'est par exemple lorsqu'on voit les fenêtres dans les open world, en général, c'est une texture plaquée. C'est une texture de photo. Là, je sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde dans les appartements, il y a une petite modélisation, il y a une table, des petits objets.
Il y a des intérieurs.
Et ça, c'est tout bête, hein. Mais je crois que c'est une des premières fois qu'on a des intérieurs comme ça qui sont vraiment bien, qui sont singuliers selon l'endroit où on se pose.
Sur un open world de type New York, oui. Ouais. Enfin, il y avait eu Assassin's Creed Unity, je crois qu'il y avait beaucoup modélisé les intérieurs de maison. Mais
là, c'est vrai que chaque fenêtre a un truc, il y a un renvoi à quelque chose. Je trouve que c'est vraiment impressionnant.
Dans ce que tu as dit, Marius, tout à l'heure, il y a un point que moi j'ai trouvé absolument dingue, c'est, tu l'as dit rapidement, c'est on ne se téléporte jamais, donc on ne passe pas d'un point A à un point B de la carte, mais plus l'objectif suivant est loin, plus on tripe.
Ah oui,
c'est on est alors que bon dans le, certains open world au bout de quelques heures de jeu bon bah ouais, oui satures, bon bah d'accord on va peut-être prendre un taxi
fast travel
oui un fast travel et tout ça et
parce
là,
que là
tu
c'est
vois
la navigation qui fait plaisir dans ce jeu, c'est la navigation entre les gratte-ciels, c'est le fait de se
et
projeter,
là t'es au sud de Manhattan et tu vois une petite mission à Harlem et t'es là ouais alors
par
est-ce que je me fais Central Park, Guggenheim, est-ce que je me fais la 5e, est-ce que je fais
ou est-ce que j'y vais en courant, tu peux aussi mettre au sol et courir.
Ouais, non, c'est marrant.
Là, tu rencontres les gens qui te parlent. Ah, Spider-Man, machin, tu peux leur taper les mains. Enfin, c'est drôle.
Tu peux mettre au sol et courir. Mais il y a un plaisir aussi. Une fois que tu as débloqué une option, ouais, tu peux courir et te propulser pour lancer le truc. Et là, c'est
mais là, je crois
classe,
qu'il disait
quoi.
Limite.
Mais oui,
bus,
c'est
tu
limite.
Tu prends le bus. Je vais prendre le bus.
Mais oui, non, c'est vrai que c'est vraiment ce rapport au à l'environnement, à la ville qui est très impressionnant.
Mais moi j'ai gagné un nombre d'XP bon parce que ça reste un jeu vidéo, donc il y a plein de choses hyper classiques, de trucs à débloquer, de jetons à prendre avec
la
une
carte
source
est
secondaire
vite pleine de voyants vert,
mais
bleu,
c'est cool,
rouge.
C'est cool.
Dans
alors
tous les
plus
sens.
Il y a de voyants, plus c'est cool. Mmh. Hein, c'est alors que des fois on se souvient de certains Watch Dogs par exemple où ça pouvait casser tout ce que tu veux parce que t'en pouvais plus des voyants et des choses à faire. Là, c'est juste, enfin, il y a une sorte de besoin de complétude face à ça.
Ouais, ce qui est presque un peu, ça va contre la raison en fait, parce que les missions secondaires, elles sont, enfin, pas les missions secondaires pour le coup, sont pas mal, mais il y a plein de petites mini missions qui sont relativement nulles. C'est du remplissage.
Les sacs à trouver,
les pigeons.
Les monuments à prendre. Les monuments à photographier, c'est hyper cool, quoi. Moi, je.
Pas fait beaucoup, moi, mais.
Ah, mais alors, il faut essayer un truc, c'est le monument à photographier. T'es en plein mouvement, tu vois que t'es à côté d'un monument, et là, tu sors ton appareil photo alors que t'es en l'air, tu fais gâchette gauche, tu cadres, gâchette droite, tu prends la photo, et t'es tout le temps en l'air, tu lâches l'appareil photo et tu reprends ta
et
course.
Et après, t'as les photos secrètes.
Et t'as. Ah bon ?
Ouais.
Ah, je suis pas allé là encore.
Alors, il faut expliquer, tout ça permet de débloquer des points qui nous permettent d'améliorer le personnage aussi, de débloquer des facultés.
Avec 37-46 différentes, yeah.
Et, ah oui, alors oui. Ça, il y en a plein. Il y a des jetons de tout ce que tu veux, des jetons de défis, des jetons de brigands, des jetons de photos, des jetons de sacs à dos, des jetons de trucs. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu sais pas trop ce qui te manque pour débloquer cette tenue. Enfin, c'est un
mais
peu...
surtout qu'ils te demandent des jetons de trucs que t'as pas forcément encore débloqués avec la mission principale, ce qui fait que c'est un peu frustrant. Mais...
Ouais, ouais. Mais encore une fois, ils ont bien respecté le personnage qui n'existait pas, mais on peut imaginer que s'il existait.
Alors, en termes de respect de personnage, il faut qu'on parle d'un truc quand même. La gueule de Peter Parker.
Ouais, qui est un peu bizarre. Hein.
Elle
est un peu
hyper
bizarre.
Chelou.
Ouais,
hein.
Elle est
hyper
ouais.
chelou. Il est chum quand même.
Autant les autres personnages sont moins choquants, globalement, mais c'est vrai que lui est étrangement modélisé. Ouais, je suis d'accord.
Mais au niveau.
On voit surtout son masque.
Voilà, hein. Le ton est là. Et,
Ouais, puis encore une
et
fois, le fait.
Comme il faut.
On sent qu'il est vraiment à l'aise lorsqu'il jongle entre les gratte-ciel new-yorkais, mais dès qu'on est, par exemple, au-dessus de Central Park, on sent que le Spider-Man est moins à l'aise parce qu'il y a moins de hauteur. Enfin, comme tu disais, c'est vraiment sur la verticalité. C'est un personnage qui joue là-dessus. Et dès qu'il est au-dessus de Central Park, il n'a pas les mêmes.
C'est un jeu de mi-hauteur. On est à mi-hauteur avec Spider-Man. Mmh. On ne vole pas. Hein.
Non.
Et on n'est pas par terre, on est à mi-hauteur. Et c'est vrai que la mi-hauteur à Central Park est assez relou, hein, parce qu'elle est toute près du sol quand même.
Ah, c'est clair.
Et donc,
c'est bien reproduit. Alors moi, je trouve que le jeu est très beau, il faut le dire aussi. Visuellement, il a un vrai cachet, il est lumineux, il est brillant, il y a des effets de lumière, il y a plein. Voilà, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, très franchement. Moi, après, je trouve qu'on retrouve, et il y a toujours dans ces jeux Spider-Man, et je pense que c'est aussi lié au personnage lui-même, je trouve que très vite, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on retrouve vite des missions un peu reloues, quoi. Genre, tu dois suivre tel ennemi, et dès qu'il dépasse les 150 mètres de distance, hop, game over, tu reviens en arrière.
C'est-à-dire que les missions inspirées d'Assassin's Creed sont ennuyeuses.
Ben, je trouve que, non mais c'est un truc qu'on avait déjà eu dans les précédents jeux Spider-Man. Alors tu sais, c'est très plaisant de jongler comme ça entre les immeubles, c'est vraiment jouissif quand tu incarnes ce personnage, mais très vite, je trouve que tu retrouves des missions comme ça qui sont un peu frustrantes.
Il y a plein de missions qui sont très paresseuses.
C'est du game over, et tu dis, mince, parce qu'il y a un moteur, il y a un univers qui sont exceptionnels, mais tu retrouves très vite ces petites missions qui sont chiantes, que tu vas refaire 5, 6, 7, 8 fois et que tu pestes un peu contre le jeu en ces moments-là, tu sens. Et je pense que c'est plus lié au personnage lui-même, c'est-à-dire que quand t'es Spider-Man, il faut ces missions où tu vas courir après un personnage, tu vas jongler, et ça devient vite limitant, et c'est pas toutes les missions, heureusement, mais je trouve
c'est,
que...
C'est une question de game design, ça, enfin, c'est un choix...
Ouais, je trouve que, voilà, moi, il y a une mission où tu dois, voilà, concrètement, il fallait pas être distancé de plus de 150 mètres et c'est chiant. Enfin, tu vois, il y a des missions comme ça qui sont vite fatigantes.
Après, je jette pas la pierre à Insomniac, hein, qui non, on leur a demandé un gros triple A classique. Ils ont fait un gros
encore une fois,
je pense
que c'est voilà. plus lié au personnage et ça pose des questions sur un potentiel jeu Superman qui aura aussi des vraies problématiques de game design, etc. Ça sera un vrai souci.
Mais jamais.
Mais personne n'a envie de ce
jeu. On peut pas rester sur Superman 64. Il faut qu'on avance.
Si, on peut y rester.
Il y en a eu d'autres.
On peut commémorer régulièrement.
Voilà, on peut commémorer Superman 64 autant que tu veux. Il peut sortir sur la Switch. Hein, il peut sortir sur la Switch.
C'est osé, oh, cela dit, la dernière fois qu'on a vu Spider-Man dans un jeu vidéo, c'était Les Injustices et c'était pas si mal.
Superman, ouais, Superman. Injustice.
Quoi faire.
Mais
en tout cas, ils ont réussi. Le plus important, c'est le côté, comme tu disais, jouissif de se balader entre les gratte-ciels. Pour moi, c'était ça. Et c'est surtout, c'est très spontané. Dans le gameplay, je trouve très vite on l'intègre.
D'une part, on est sur un monde ouvert qui est exceptionnel. C'est vrai que ce qui va rester de ce Spider-Man, c'est vraiment cette capacité à se balader et à aller d'un endroit à un autre. Les souvenirs sont là. Tu disais, Marius, aussi, on en a parlé beaucoup, mais qu'en plus, sur la longueur, il tient la route. C'est-à-dire que même au niveau du scénario, il y a quand même des choses qui sont pensées sur la fin du jeu.
Même les trucs qui me déplaisaient le plus dans le jeu au début, c'est-à-dire les combats de boss que je trouve assez.
C'est toujours
flemmard,
un peu
répétitif.
Et très old school aussi. C'est très old school, ça.
Et ben, ils réussissent à trouver un nouveau souffle vers le dernier tiers du jeu qui est assez jouissif, très proche des comic books dans l'esprit. Et du coup, moi, ça, c'est un truc que je vais garder en esprit pendant longtemps. Quoi.
Mais oui, mais c'est ça qui est fort. Alors, c'est ce que tu disais, la remarque était super importante, Corentin, c'était on a demandé à Insomniac un gros triple A, ils ont sorti un gros triple A, et c'est un gros triple A. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gros triple A, tu mets des dizaines de millions de dollars de développement, de choses comme ça, c'est dur de faire une bouse quand même avec ce pognon. Mais là, ils ont quand même, il y a quand même quelque chose de l'esprit de Spider-Man. Ils ont rempli le cahier des charges.
Il y a un cahier des charges qui a rempli. Enfin, j'ai le sentiment en tout cas qu'ils ont mis aussi un peu une patte qu'on n'attendait pas forcément. Toute la fluidité d'un Spider-Man, ça, c'est vraiment proof of concept, quoi. Regardez ce qu'on peut faire avec Spider-Man aujourd'hui en 2018, ce qui était quand même pas forcément évident à la base, quoi, je trouve.
Moi, j'ai adoré voir un documentaire ou un article ou peut-être un post-mortem sur Gamma Sutra ou un truc comme ça, sur comme il y avait eu sur la hache de Kratos dans...
Gamma Tool Kit, excellent.
Un truc sur comment est-ce qu'on fait se balancer Spider-Man entre deux immeubles, parce qu'il y a des... On sent qu'il y a... C'est pensé au millimètre.
Mais on
voit pas trop comment... Enfin, c'est ça, la magie, quoi.
Quand tu cours, tu te propulses. Il y a ce moment magique où tu es pas encore complètement en hauteur, mais tu survoles les gens, tu passes au-dessus des voitures, et ça, c'est...
Mais même il y a des trucs où tu fais une chute libre, genre depuis l'Empire State Building, et là tu mets ta toile au dernier moment, et là tu fais du rase-motte entre deux bagnoles, et t'es là,
Tout est fluide.
Il y a un effet assez récurrent quand même.
On sent qu'il y a beaucoup de travail sur le comportement, sur comment il interagit avec l'environnement, en fait. Et en tout cas, c'est une expérience très fluide de jeu, à part ces quelques missions qui sont un peu...
J'aurais aimé pouvoir, en tout cas moi personnellement, en dire un peu de mal, faire des réserves et tout ça, mais en fait il y a tellement ce truc c'est organique, tu l'as dit tout à l'heure, donc
j'ai le sentiment que le consensus c'est qu'il est peut-être un peu trop classique finalement, mais bon, c'est bien fait, donc il n'y a rien d'autre à dire.
Si, il y a la DA, je suis désolé, mais les costumes de Spider-Man qu'on débloque, déjà c'est une super idée parce que c'est cool de pouvoir changer et machin, mais ils sont moches, quoi. Tout est horriblement moche. Le costume le plus badass, qui est le Spider-Man noir, ils l'ont loupé en faisant un truc un peu modernisé, brillant, qui aurait... jusqu'à l'avant-dernier costume, je crois, un truc comme ça, qui est une version cel-shading. Oula, voilà. Il tue le jeu, quoi.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a montré une capture d'écran, je suis pas arrivé là, mais l'avant-dernier costume est taré, quand même. Mais c'est vrai que les autres costumes sont laids. Est-ce que tu changes de costume? Enfin, tu vois. Non,
pas plus que ça.
Non, tu prends le costume classique. Ouais, c'est t'as pas le choix, quoi. Enfin,
Et du coup, là, on n'est pas relié à un film. Hein. On est sur un. On n'est pas lié au dernier.
Libre, ça, c'est plutôt chouette aussi.
Il y a pas de. Voilà, c'est pas collé au scénario d'un film.
Je me suis fait engueuler. Il y a un expert Marvel qui m'a dit. Ah non, hein, c'est rien à voir avec le MCU. Ah bon,
t'as. Oula, d'accord. Oula.
D'accord. Ok.
Ah, mais ça, par
contre. Il y a quand même la tour Avenger.
C'est pas intégré dans la diégèse du MCU, quoi.
D'accord.
Il y a des petits clins d'œil quand même.
Ouais.
Bref.
Mais moins MCU que que l'univers Marvel.
Ouais, voilà, que comics de base. Donc, c'est Spider-Man sur PS4. Donc, vous pouvez y aller. Bon, vous y êtes déjà,
ouais, hein, bah,
si vous avez PS4, très, très clairement.
Valeur sûre.
Et très valeur sûre. On va terminer cette première émission de la saison 12 de Silence on Joue. Je vais faire les choses dans l'ordre. Avec ce jeu dont on a parlé, hein, je crois, on l'a évoqué parce qu'il y avait eu beaucoup de trailers, beaucoup d'annonces, un Kickstarter, un accès anticipé. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de choses.
Deux ans, je crois, sur
We Happy Few, qui est finalement sorti au milieu du mois d'août, peut-être un peu trop dans l'indifférence généralisée. We Happy Few. Oui, Happy Few, c'est qui déjà ?
C'est Compulsion Games.
Compulsion Games et Gearbox, édité par Gearbox, c'est ça ?
Qui s'en fait racheter depuis par Microsoft.
Voilà. Et donc, on en avait beaucoup parlé parce qu'il y a un truc d'univers. Il y a un truc d'univers avec ces personnages, un masque souriant, les gens qui ne prennent pas de drogue, qui se font pourchasser. Enfin, il y a une sorte de dystopie un peu gênante, un peu asphyxiante comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de curiosité autour de We Happy Few, et tu y as joué, Marius.
Ouais, c'est un jeu curieux, mal fichu, pété de partout, probablement bien dans quelques mois quand il aura été un peu rafistolé. Mais il a une âme, quoi. Il y a un truc pareil qui est un peu accidentel, étonnante, parce que le jeu a été pensé d'abord comme un survival en procédural qui a été mis en early access pendant longtemps.
Il a commencé en Early Access à être survival procédural.
Voilà, et c'est des retours de joueurs qui ont réclamé plus de narration. Et en fait, c'est pour ça qu'on revient au jeu, parce que la narration est plutôt cool. Ça crée quelque chose. Alors, l'histoire, très sommairement,
ouais.
C'est un Britannique, on se retrouve dans la peau d'un Britannique guindé, qui est devant un écran d'ordinateur un peu rétro.
Ouais, on est sur du rétro-futuriste, voilà, de base, le futur dans les années 50-60. Et là, on censure des articles.
Voilà, on censure des articles, on doit rendre tout très très lisse, très très sympathique. Une collègue passe, nous rappelle de prendre une petite pilule, évidemment on ne la prend pas. Et tout ce qui était très joli, très coloré, commence à se déliter. Et on voit les collègues qui sont en train de jouer à la piñata, en train de défoncer un rat mort à côté, et en fait tout le jeu est sur ce
passage.
Ce double...
est assez lourd quand même, hein. C'est vrai que
tout est assez lourd, hein. tout est assez curieux et malaisant, quoi.
Il y a une sorte d'ambiance hyper pesante, et ce passage là où tu commences à taper la piñata et puis hop, la drogue fait carrément plus la joy, hein, ouais. ne fait pas plus effet du tout, et là tu te retrouves, ils sont tous chum, ils ont des gouttes de sang partout, ils sont en train de bastonner un rat crevé et de manger les viscères parce qu'ils croient que c'est des bonbons de la piñata.
Disais Night Trap, c'est du Disney à côté.
Mais surtout, la grande qualité, en fait, bon, le monde invente une Angleterre qui aurait perdu la guerre et qui, pour s'acheter les faveurs du gouvernement allemand, a expédié plein de gamins en Allemagne, au STO.
Super,
hein. Ah non, c'est rien.
Ambiance.
Ayant du mal à assumer un petit peu cette décision politique, tout est factice. Les gens prennent de la drogue, une espèce de truc qui rend tout le monde euphorique. Tout est très coloré, tout le monde est très sympa. Et en fait, c'est un pays sans histoire, une société sans histoire, où tout le monde vit dans l'illusion. Et on est le seul abruti à se retrouver dans la grisaille. Et
ce dans la réalité,
étonnant,
en fait.
Voilà, dans la réalité. Et ce qui est marrant, c'est que ça invente un jeu vidéo où on a la trouille de la couleur d'un monde joyeux et heureux. Et les rares moments où on se retrouve au milieu des ordures, de la déréliction,
t'es bien, quoi.
On est bien dans le gris, on est bien dans le marron, c'est là qu'on est heureux. Et par contre, l'orange, ça fout la trouille, quoi.
Ah, et donc, tu disais un peu quand même, en fait, parce que toi, tu y es revenu malgré le jeu, en fait.
Ouais, c'est très frustrant. Le système de sauvegarde est complètement pété. Des fois, on enregistre son jeu, on revient, on se retrouve à un autre endroit, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Il y a aussi un système, en fait c'est un FPS, mais où on évite les combats parce qu'ils sont pas très agréables et pas très efficaces. Du coup, on est dans l'infiltration.
Forcé,
mais le jeu pousse à ça, ouais, en fait. D'accord. Et le problème, c'est que les PNJ ont des comportements très bizarres. Et que des fois, ça peut bloquer complètement des missions. Et il faut relancer les sauvegardes précédentes.
Ou tu sais pas où tu vas apparaître, donc voilà, c'est relou.
Tu joues sur PC ?
PS4.
Sur PS4, d'accord.
Et moi, il y avait une impression un peu bizarre de pas savoir sur quel genre de jeu on est.
Voilà.
C'est que tu sens qu'il y a un univers quand même bien solide. Dans ton article, t'en parlais, mais on fait un parallèle avec le BioShock, enfin des choses un peu comme ça.
Sur le contrôle, quoi. Mmh. Et puis il y a une vraie gourmandise littéraire. C'est ça qui est marrant avec un jeu qui vient du procédural et qui est très littéraire, qui est très malin dans sa façon d'écrire, qui va caser des petites blagues, des petites références au Monty Python, mais sans les appuyer. Mmh. Donc, si tu le vois, c'est super, t'es tordu de rire, sinon, c'est pas grave.
Ouais.
Mmh. Et ça, c'est assez chouette, quoi.
Mais en même temps, donc on est sur du narratif, sur un univers, en FPS, à faire de l'infiltration, à récupérer des tas d'objets pour faire un crafting un peu moisi, enfin un peu approximatif.
Il faut boire, il faut manger.
Mais tu sais, t'as ce côté un peu RPG années 90 où tu remplis ton inventaire avec toutes les merdes que tu trouves à droite à gauche parce que au cas où ça va peut-être servir. Et puis t'as des sortes de coffres de où tu peux mettre tout ton inventaire, te vider ton inventaire et tu vas les retrouver à différents endroits sur la map. Et du coup t'as une sorte de mélange de trucs. En tout cas, en termes de gameplay, un peu indigeste, parce que t'as l'impression qu'ils ont tout mis, quoi. Limite, ils vont te demander de faire du city building à un moment, quoi. Enfin,
les bonnes idées qui sont la prise de drogue régulière pour pas se faire repérer par les gens joyeux est mal équilibrée. Le truc est trop rapide. Du coup, on prend de la drogue en permanence. Du coup, on est en descente. Tout est un peu foireux. Et en fait, c'est un mauvais jeu, mais qui est super.
Voilà. Mais c'est bien. C'est bien, ça définit bien le truc.
En attendant, c'est déjà le deuxième jeu de survie craft comme ça qui se passe en Angleterre et qui se retrouve moyen avec Sir You Are Being Hunted, qui était un autre jeu qui a été fait, je crois, par les mecs de Rock Paper Shotgun. Et pareil, on était un humain et c'était une ville britannique avec des chasseurs guindés, pareil. Mais je sais pas, j'espère qu'un jour ils vont réussir à faire un bon jeu de ce genre-là en Angleterre. J'ai l'impression qu'il y a une vraie envie, mais qu'ils n'y arrivent pas, c'est triste.
Non, mais moi j'étais quand même un peu triste parce que c'est vrai que je trouvais prometteur en termes d'ambiance. Moi j'ai commencé à y jouer et je trouve vraiment l'univers. En plus, ça fait du bien, entre guillemets, à côté de Spider-Man, où ça remplit les objectifs et t'es dans la joie, le fun pur, un côté hyper joyeux, t'es content de jouer,
là, t'es content de l'univers,
t'es content des couleurs. Et t'arrives là, et en fait, c'est
quoi.
Ouais, mais ça fait presque plaisir d'être dans un univers un peu malsain, en fait, un peu où tu vas à reculons, où les trucs, tu sais que ça va pas te faire plaisir. Donc, l'univers est hyper prometteur, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est pas pensé, en fait. Il y a un truc qui manque.
C'est peut-être ça le vrai problème du jeu, finalement. C'est que l'univers est trop prometteur pour un jeu qui a ce système-là. C'est vrai que tu parlais de la séquence tout à l'heure où tu commences par censurer les journaux. Mais tout le monde a vu cette séquence-là. C'est une séquence qui a été montrée à différents E3. Et on fait waouh, mais en fait, c'est un BioShock en Angleterre, ce truc-là.
Ouais,
ça a l'air ultra cool. Et finalement, non, on se retrouve face à un jeu, en effet, plutôt organique, alors qu'on attendait quelque chose de plus linéaire et écrit. Et ça aurait peut-être été mieux, puisque j'ai l'impression que ça reste quand même les bons points du jeu.
Le problème, c'est que c'est un jeu qui n'est pas un triple A, et qui a beaucoup, beaucoup trop d'ambition, qui court après 18 choses en même temps, entre le survival, le monde ouvert, le jeu narratif, et qui réussit rien vraiment bien. En tout cas, pas suffisamment, je pense, pour...
Est-ce que tu le conseilles, au final?
Oui.
Voilà, pour les gens motivés,
parce que
il faut passer
j'avais
outre...
Parce que j'avais pas vu un truc comme ça, et que le rapport à la couleur, moi, c'est formidable.
Tu le conseilles, mais dans quelques mois, quand tu seras patché, quoi.
Voilà, et puis avec un petit peu de calme.
Après un mini-métro, par exemple.
Oui,
c'est ça.
Non, mais c'est bien pour des vacances, par exemple.
Et c'est ce que tu disais aussi, c'est voilà, il a pas le charme de l'indé un peu fauché, et il a pas la finition d'un triple A.
Le cul entre deux chaises.
Le cul entre deux chaises. Oui, happy few.
Le mot de la fin.
C'est ça. On va prendre un peu de joy, un peu de drogue pour être joyeux après après tout ça. Voilà, c'est fini. C'est fini pour ce premier numéro de Silence on joue chez Binge Audio. Et donc, voilà, c'est parti pour cette 12e saison. Mais on ne change pas les formules qui gagnent. Et on va finir par la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Petit récap de l'été. Hein, allez, cinéma cet été.
Alors, première semaine, j'ai regardé une série. Deuxième semaine, j'ai
trois bouquins. C'était difficile de passer cet été à côté du Mission Impossible au cinéma, Fallout. Ouais, vraiment. Enfin, moi, j'y suis allé un peu à reculons. Je suis pas un fan de la série. Tom Cruise, il y a des hauts et des bas. Et franchement, c'est impressionnant. On peut pas retirer le fait que le film a des scènes vraiment hallucinantes de cascades, etc. Alors, c'est un peu dommage que je trouve que le scénario pourrait quasiment tenir écran au marqueur sur un ticket de métro. C'est un peu dommage. Je trouve que le scénario n'est pas à la hauteur de la puissance visuelle du film et des effets spéciaux. Maintenant, c'est vrai qu'on n'avait pas vu des cascades dans Paris comme ça depuis Dangereusement Vôtre, en 85. Donc, il faut quand même le saluer. Et d'ailleurs, ça pose la question. On se dit, après un film...
Est-ce qu'un auditeur peut compter le nombre d'occurrences de Dangereusement Vôtre dans Silence on joue depuis 12 ans? Je trouve que c'est totalement... C'est une anomalie, en fait.
Plus sérieusement, ça pose des questions. Après un film de cette ampleur, c'est que va faire James Bond après ça? Parce que c'est vrai que ça pose, je trouve, des questions. En plus, quand on sait les difficultés dans lesquelles le prochain film sont actuellement, avec Danny Boyle qui a quitté le développement, on se dit, où va James Bond après ça? C'est vrai qu'après un Mission Impossible aussi... il joue pas sur le même créneau non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un marqueur, ce film. Et on se dit, le prochain Bond va devoir aussi composer avec l'héritage de ces films en face. Voilà.
Corentin.
Alors moi, j'ai lu Tokyo Vice, qui est donc ce roman, ce polar plutôt, écrit par un journaliste qui s'appelle Jake Adelstein. Donc c'est un polar, mais en même temps, ça raconte une partie de sa vie. Hein. Donc Jake Adelstein, c'est le premier, alors peut-être plus le seul maintenant, mais en tout cas c'était le premier journaliste occidental à être embauché au Yomiuri, c'est ça, Shinbun, qui est le Figaro local, grosso modo. C'est le gros journal quotidien au Japon, et donc il a été embauché au service police-justice, et donc il a couvert le crime. Donc ça commence par des petits faits divers, des petits meurtres comme ça, puis de fil en aiguille il va commencer à faire du trafic d'influence, du trafic de gens, du trafic de la protection et de ça, et il va raconter donc en fait les bas-fonds de Tokyo, comment les Yakuza run le show entre guillemets, corrompent les politiques, tout le monde, pour finalement garder une place dans cette société où finalement ils ont plein de business dans plein d'endroits différents. Et c'est bien écrit, c'est super bien traduit, c'est passionnant, il y a une écriture un peu directe comme ça qui est vraiment bonne et que j'aime beaucoup, des petites phrases, des courts commentaires par le journaliste, et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est passionnant, on a envie de connaître ce qui se passe, d'autant qu'il y a des arcs comme ça qui se font, et on sait que de toute façon le journaliste va bien finir puisqu'il a été là pour raconter ce qui lui est arrivé, donc c'est vraiment chouette, je recommande pour tous ceux qui l'ont pas lu. Alors le roman est assez connu maintenant, il est sorti en 2016 en français, donc voilà, n'ayez pas peur. Et encore une fois,
ça existe en poche.
Je l'ai lu en poche, moi. Donc la traduction est vraiment, elle est vraiment bonne, quoi. J'étais vraiment épaté. C'est aux éditions Marciali et j'ai pas le prix, mais ça se trouve, j'imagine, pour une quinzaine d'euros.
Marius.
Cinéma. Invasion de Kiyoshi Kurosawa, film d'extraterrestre après avoir exploré le film de fantôme pendant très longtemps. Il décline, il avait déjà fait un premier film d'extraterrestre qui s'appelait Avant que nous disparaissions, qui est sur le même concept. En gros, c'est du body snatcher, les extraterrestres sont là, on ne les voit pas.
Trop bien.
Zéro spécial,
tu me l'as vendu, en fait.
Tout est dans la mise en scène et dans la paranoïa. Et le premier était un peu plus spectaculaire et jovial en même temps, et là celui-là est vraiment creepy, quoi. C'est formidable.
Donc Invasion.
Invasion, c'est Kiyoshi Kurosawa.
Et moi, cet été, mon roman de l'été, c'était le grand roman de la physique quantique. Oui, je lis ça pendant l'été. Franchement, j'ai trippé, vous pouvez même pas savoir. De Manjit Kumar. C'est disponible en poche aussi. Et donc, ça raconte toute l'histoire, en gros, de 1890, avec Planck qui découvre les premiers effets un peu quantiques, le quanta d'énergie. On découvre après, évidemment, Einstein, Niels Bohr.
Non, mais c'est ce que tu as raconté cet été sur Twitter, là. C'est le long thread que tu as fait sur Twitter.
C'est entre autres, enfin là, c'était juste un tout petit peu, c'était quelques pages du roman. D'accord. Mais c'est juste absolument incroyable. Ça finit dans les années 60. Voilà, tous ces esprits-là qui ont un peu découvert ce qu'était la nature, la réalité de la nature, ou la nature de la réalité, comme on veut. La nature de la réalité, c'est et qui ont réussi à comprendre, comment ça, tout ça fonctionne avec quelque chose de complètement what the fuck qui s'appelle la physique quantique. Et franchement, c'est à lire, c'est très très bien écrit et c'est très bien raconté. On lit ça vraiment comme un roman. Il y a très peu de passages un peu. Bon, il y a forcément des passages un petit peu compliqués, mais pas tant que ça. Et
c'est bien vulgarisé quand même.
C'est super bien vulgarisé. Moi, j'ai compris beaucoup plus de choses de la physique quantique avec ça qu'avec les bouquins de vulgarisation.
Le plus dur, c'est de retenir en fait. C'est ça le problème.
C'est ça. Voilà, c'est fini pour cette première émission. Merci à tous les trois. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine ici même sur les internets, sur Binge et sur Libération.fr.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.